VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 6 juillet 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Les titres pour commencer, rencontre aujourd'hui en Angola entre les présidents de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame. Au Mali, deux casques bleus égyptiens ont été tués dans l'explosion d'une mine dans le nord. Au Niger voisin, 6 soldats ont été tués dans une nouvelle attaque près du Tchad. L'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, en exil depuis sa chute en 2014, est attendu à Ouagadougou en fin de semaine. En Guinée, arrestation musclée de 3 membres du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Au Soudan, les civils refusent de collaborer avec l'armée et appellent à plus de manifestations. 22 migrants maliens sont morts dans un naufrage au large des côtes libyennes. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Donc, rencontre très attendue ce mercredi entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame à Luanda, sous la médiation de l'angolais João Lourenço. Les deux dirigeants vont tenter de faire baisser la tension entre les deux pays voisins. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'Angola, désigné par l'Union africaine pour mener cette médiation, sera donc le lieu de rencontre des chefs d'État des deux pays. Initialement prévue hier mardi, la rencontre a été reportée à ce mercredi 6 juillet, selon le service de presse de la présidence angolaise. Les relations entre Kinshasa et Kigali ont été heurtées depuis plusieurs années, mais avaient commencé à se dégeler après l'entrée en fonction du président de la RDC, Félix Tshisekedi, en 2019. Mais la résurgence du M23 et l'intensification des combats ces dernières semaines ont ravivé les tensions entre Kinshasa et Kigali. Rébellion à dominante Tutsi, le M23 a repris les armes en fin d'année dernière, reprochant aux autorités congolaises de ne pas avoir respecté un accord conclu à Nairobi pour la démobilisation et la réinsertion de ses combattants. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir ce mouvement, ce que Kigali nie, accusant à son tour l'armée congolaise de tirer sur le territoire rwandais.
Deux casques bleus égyptiens de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, ont été tués et 5, également des Égyptiens, grièvement blessés mardi dans l'explosion d'une mine dans le nord du pays, en proie à des violences djihadistes. Selon l'ONU, un véhicule blindé d'un convoi logistique de la MINUSMA a heurté une mine sur l'axe Tessalit-Gao, à 100 kilomètres de Gao. Au Niger voisin, le ministère de la Défense a annoncé hier soir que 6 soldats nigériens ont été tués et 14 blessés dans la nuit de lundi à mardi dans une attaque menée par 50 de djihadistes présumés contre le poste militaire de Blabrine dans le sud-est du pays, près de la frontière avec le Tchad. Le bilan provisoire fait également état de 17 morts côté ennemi, tandis que des armements et munitions ont été récupérés par les forces armées qui ratissent la zone, selon le ministère. L'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, est attendu à Ouagadougou en fin de semaine, jeudi ou vendredi. Il doit y rencontrer les autorités militaires issues du coup d'État de janvier dans le cadre de la réconciliation nationale, ont déclaré à l'AFP des sources proches du pouvoir burkinabé et de l'entourage du président déchu. M. Compaoré a été condamné par contumace à la prison à perpétuité en avril par un tribunal militaire de son pays, à l'issue d'un procès de 6 mois pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara lors d'un coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1987. En Guinée, trois membres du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, ont été arrêtés mardi à Conakry alors qu'ils animaient une conférence de presse. Le FNDC, fer de lance des contestations contre le changement de constitution en Guinée, est opposé depuis quelque temps à la façon dont la transition est gérée par les militaires au pouvoir depuis le 5 septembre. Le point avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
La scène s'est déroulée devant les caméras des journalistes en pleine conférence de presse. Des agents des forces de l'ordre font irruption dans la salle au siège du FNDC. Les organisateurs opposent un refus d'obtempérer et réclament des mandats d'arrêt. Ensuite, s'en suivirent des arrestations spectaculaires. Deux premiers activistes sont extraits de la salle, puis amenés vers un véhicule 4x4. Dernier interpellé, le coordinateur national du mouvement a été traîné par ses membres. L'image de son arrestation a fait le tour des réseaux sociaux, devenant virale. Le matin, le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, avait dit sur FIM FM, une radio privée, avoir instruit les procureurs d'instance d'engager des poursuites contre les trois activistes accusés pour des propos injurieux sur Internet. Zakaria Camara, pour VOA Afrique, Conakry.
Au Soudan, le principal bloc civil a rejeté hier la proposition du général Abdel Fattah al-Burhan de laisser la place à un gouvernement civil, dénonçant un retrait tactique pour maintenir l'influence de l'armée dans le pays. Lionel Gahima.
Les forces pour la liberté et le changement ont appelé à maintenir la pression populaire contre le pouvoir militaire au sixième jour du sit-in dans la capitale et ses banlieues. L'annonce lundi soir du général Abdel Fattah al-Burhan de laisser la place à un gouvernement civil n'a pas convaincu dans la capitale et ses banlieues où des nouvelles barricades ont été montées après son discours. Hier mardi, des centaines de manifestants ont lancé un nouveau sit-in à Wad Madani, à 200 kilomètres plus au sud. Le général Burhan a aussi déclaré qu'à côté du gouvernement civil siégerait un conseil suprême des forces armées dont il n'a pas défini les prérogatives. Ensuite, il s'est rendu hier à Nairobi pour une réunion urgente des chefs d'État de l'IGAD, l'Organisation régionale d'Afrique de l'Est. Il y a discuté avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed après un nouvel incident frontalier entre les deux pays.
22 migrants, dont 3 enfants, tous originaires du Mali, sont morts dans un naufrage au large des côtes libyennes. Le point avec Jean-Roger Bion.
Après 9 jours en mer dans un canot pneumatique, 61 survivants, pour la plupart originaires du Mali, ont été secourus par les gardes-côtes libyens, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations. Les migrants avaient embarqué à Zouara, une ville libyenne près de la frontière tunisienne, sur un canot pneumatique le 22 juin, a déclaré sa femme Céline, la porte-parole de l'OIM. Après 9 jours en mer, ils ont été récupérés par les gardes-côtes libyens, a-t-elle déclaré. Selon les survivants, 22 migrants, tous originaires du Mali, sont morts pendant le voyage. Les causes de décès signalées sont la noyade et la déshydratation. Parmi les morts figurent 3 enfants. La porte-parole a aussi ajouté que certains migrants étaient en très mauvais état de santé et ont donc été emmenés dans des hôpitaux par l'OIM. Les migrants restants ont été emmenés au centre de détention d'Almaya, en Libye.
Le Maroc prône la reprise du processus politique des tables rondes en vue d'une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis pour le Sahara occidental. Ce format est rejeté par l'Algérie, qui soutient les indépendantistes du Polisario, a indiqué mardi la diplomatie marocaine en recevant l'émissaire de l'ONU. En visite à Rabat, depuis le 2 juillet, Staffane de Mistura a eu des entretiens mardi avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, Omar Hilal. Il a renoncé à une visite prévue au Sahara occidental, décision que le Polisario dit regretter profondément, accusant Rabat de l'empêcher de témoigner directement de la situation sur le terrain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le jeune homme accusé d'avoir ouvert le feu lors des célébrations de la fête nationale américaine du 4 juillet à Highland Park, près de Chicago, a été inculpé de 7 meurtres. Il pourrait passer le reste de sa vie en prison, ont annoncé les autorités hier. Les forces russes continuaient de progresser ce mercredi dans le Donbass, où les habitants de Sloviansk, prochaine cible de Moscou, sont appelés à évacuer face aux intenses bombardements. Pendant la semaine, il n'y a pas eu un seul jour sans bombardement, a déclaré hier soir le gouverneur de la région de Donetsk. Il avait annoncé quelques heures plus tôt 2 morts et 7 blessés dans des frappes qui ont notamment visé le marché de la ville. L'euro a plongé mardi à son niveau le plus bas depuis près de 20 ans face au dollar, s'approchant de la parité emportée par les tensions sur l'énergie en Europe provoquée par la guerre en Ukraine. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Gabon, le ministre de l'Environnement, Lee White, a annoncé la création de 187 millions de crédits carbone, dont 90 millions seront vendus sur le marché des compensations avant la COP27 en novembre prochain. Selon Ecofin, cette opération représente la plus grande émission de crédit carbone à l'échelle mondiale. La monétisation de 90 millions de crédits carbone devrait permettre au Gabon d'encaisser 291 millions de dollars. Le Bénin va bénéficier d'un nouveau soutien financier de l'Union européenne, 255 millions d'euros, soit plus de 167 milliards de francs CFA, ont été promis pour la période 2021-2024. Cet appui est dédié au renforcement du capital humain et à la promotion de la croissance verte et du numérique. L'UE a salué l'attachement du Bénin à la démocratie et son engagement dans la voie de réformes politiques, institutionnelles et économiques depuis 2016. Le Maroc a annoncé hier la remise en service de 2 grandes centrales électriques grâce à du gaz naturel liquéfié acheminé depuis l'Espagne via le gazoduc Maghreb-Europe après la décision d'Alger de ne plus approvisionner le royaume en gaz. Fin octobre, Alger avait décidé de ne pas renouveler le contrat du GME sur fond d'escalade de tensions entre les deux voisins du Maghreb autour de l'épineux dossier du Sahara occidental.
Merci Claire. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La CAN féminine se poursuit au Maroc.
Oui, le groupe B effectue sa 2e sortie dans cette CAN. Battu d'entrée par la Tunisie, le Togo défie le Cameroun et la Zambie joue la Tunisie justement. 2e défaite hier pour le Burkina Faso. Battu en ouverture par le pays hôte, les étalons d'âme se sont à nouveau inclinés devant le Sénégal 1-0. Les Lions enchaînent ainsi une 2e victoire dans cette compétition.
Aucun compromis sur l'exigence et le travail, prévient Christophe Galtier.
C'est ce qu'a affirmé le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain présenté hier au Parc des Princes. Christophe Galtier compte appliquer sa poigne aux Parisiens, se disant capable de gérer les égos d'un effectif de luxe pour relever le défi ultime du club, conquérir la Ligue des Champions.
L'exigence, le travail, le respect et l'équipe avant toute chose. Il y aura évidemment, comme dans tout groupe, quelquefois quelques manquements, ça peut arriver. Mais on va faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Les décisions seront prises. Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe.
L'ancien coach de Nice, qui s'est engagé pour 2 ans avec le Paris Saint-Germain, remplace l'Argentin Mauricio Pochettino.
Mondial de rugby 2023, les matchs qualificatifs de la zone Afrique se poursuivent.
Ça se joue en France. La sélection algérienne a fait figure de petit pousset des demi-finales de ce mercredi. L'Algérie, victorieuse du Sénégal 35-12 en quart de finale, sera opposée au Kenya à Marseille pour une place en finale dimanche. L'autre demi-finale verra la Namibie, grande favorite de la compétition et 24e nation mondiale, affronter le Zimbabwe à Aix-en-Provence. Le vainqueur de la finale se qualifiera pour le Mondial 2023.
Cyclisme, 5e étape du Tour de France ce mercredi.
Oui, le peloton ira de Lille à Arenberg sur une distance de 157 km. Hier, Wout van Aert a réussi un coup de force s'imposant en solitaire à Calais. Déjà porteur du maillot jaune, le Belge de l'équipe Jumbo s'était classé deuxième des trois premières étapes au Danemark. Âgé de 27 ans, il remporte ainsi son septième succès d'étape dans le Tour de France depuis sa première participation en 2019. Au classement général, il compte désormais 25 secondes d'avance sur l'autre Belge, Yves Lampaert, et 32 secondes sur le vainqueur sortant, le Slovène Tadej Pogačar.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudière. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se rencontrent donc aujourd'hui à Luanda, en Angola, pour tenter de désamorcer la crise entre les deux voisins des Grands Lacs. Ce tête-à-tête se tient sous l'égide du médiateur de l'Union africaine, leur homologue angolais João Lourenço. La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 très active dans l'Est, ce que Kigali nie. Que peut-on attendre de cette rencontre? Eric Manirakiza a joint à Goma le professeur Kennedy Kiangi Bindu, directeur du Centre de recherche CREDA sur la démocratie et le développement en Afrique. Il est également vice-recteur de l'Université libre des pays des Grands Lacs.
Il s'agit de deux pays voisins, et ces deux pays voisins sont condamnés à vivre ensemble, le peuple sont condamnés à vivre ensemble depuis des années, et ça va continuer. Et dans ces conflits, on a tous compris qu'il y a deux mécanismes qui sont placés en meilleure position pour résoudre la crise. Ça veut dire sur le plan militaire, tout comme sur le plan diplomatique. Et que donc, déjà, si les deux chefs d'État peuvent accepter de se rencontrer, c'est déjà une manière d'organiser une désescalade de la situation, de la crise. S'asseoir, discuter, ça a toujours été une bonne solution de dialoguer. Donc, je ne peux que, moi, saluer ce courage de ces deux chefs d'État de pouvoir se retrouver en Angola pour trouver une piste de solution. Donc, je note ça positivement.
Vous êtes à Goma, c'est là où vous vivez, et vous êtes affecté, je parle de la ville de Goma, par le conflit avec le M23. Qu'est-ce que vous attendez des discussions entre les deux chefs d'État?
Premièrement, c'est de savoir quel sera le sort réservé au M23, qui est qualifié déjà aujourd'hui comme un mouvement terroriste par le gouvernement congolais. Le peuple aussi s'est déjà exprimé par rapport à la crise. J'ose croire que les chefs d'État ont entendu le cri ou le désiderata de la population. Et donc, à l'issue de cet entretien, de cette rencontre, on va certainement donner un message de paix à la population. Il faut qu'on rassure la population. Donc, il faut qu'à l'issue de cet entretien, qu'il y ait un communiqué qui va sanctionner et qui va donner ouverture à la paix dans la région. Ça ne sera rien, en fait, de continuer à se tirailler. Et les innocents tombent victimes de cette crise. Donner la paix, donner la chance à la paix, donner la joie, l'épanouissement au peuple, s'il vous plaît.
Vous voulez que les armes se taisent? Nous avons entendu le président Kagame dire qu'il faut plutôt chercher la solution au-delà de la force militaire. Il a pointé du doigt un problème de gouvernance qui s'oppose.
Mais oui, parler de problèmes de gouvernance, vous savez qu'au niveau régional, les États ont pris des engagements. Rappelez-vous l'accord d'Addis Abeba. Quand vous lisez l'accord d'Addis Abeba, il y a des obligations qui pèsent sur toutes les parties à cet accord. Moi, je pense qu'en abordant la question sur le plan diplomatique, on ne doit pas ignorer les engagements qui ont été pris par les États, et particulièrement au travers de cet accord d'Addis Abeba, qu'on les amène à lire. Et c'est cet accord qui va donner en fait la paix si les partis respectent. De deux, les armes n'ont jamais été une solution. La voie militaire n'est pas vraiment une solution idoine. La voie idoine, c'est cette voie-là du dialogue où tout le monde accepte de mettre un veto dans ce vin et accepter qu'il y ait des faiblesses de part et d'autre, que donc on mette fin à ce mouvement militaire qui est la paix dans la région.
Le professeur Kennedy Kiangi Bindu, directeur du Centre de recherche CREDA sur la démocratie et le développement en Afrique, également vice-recteur de l'Université libre des Pays des Grands Lacs. Le professeur a tenu à ajouter que dans la ville de Goma, ils attendent beaucoup de ces entretiens et osent croire que ce ne sera pas comme tous les autres dialogues passés. Il faut qu'il y ait du concret.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Au Mali, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, s'est rendu à Nioro du Sahel en compagnie du ministre de la Sécurité alimentaire. Il a évoqué, outre cette question, la levée récente des sanctions de la CEDEAO contre son pays.
La grande mobilisation de la population de Nioro du Sahel, aussi à féliciter la résilience des populations face aux sanctions de la CEDEAO qui vient d'être levée pour la défense des intérêts du peuple malien. Et cela dit, je me réjouis d'être parmi vous ce matin de présider le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période de 2022. Et cette opération de distribution gratuite des céréales et d'aliments de bétail vise à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire, et sachant bien que les causes sont, entre autres, les aléas climatiques, mais aussi les conflits intercommunautaires. Donc l'assistance humanitaire à nos populations est un devoir régalien pour les autorités de la transition, et cela va se faire en toutes circonstances. Aussi, j'instruis au gouvernement de veiller à une gestion rigoureuse de ces stocks, afin que ces stocks puissent arriver à destination jusqu'aux ayants droit. Aussi, je tiens à remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont effectué le déplacement jusqu'ici à Nioro du Sahel, mais aussi de saluer leur appui constant en faveur de la population du Mali en cette période difficile. Aussi, je ne saurais terminer avant de remercier l'ensemble des populations du Mali et tous les amis du Mali qui ont soutenu le Mali pendant cette période difficile. Et j'aurai l'occasion de m'adresser solennellement pour remercier le peuple malien et l'ensemble de ses amis. Merci. Le message que j'ai lancé, c'est un message de l'union sacrée autour du Mali. Les défis sont énormes, mais déjà, la voie est déjà tracée. Nous sommes tournés vers l'avenir. Nous allons procéder aux réformes politiques et institutionnelles et pour l'organisation des élections libres et crédibles et transparentes, tout en améliorant la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Merci.
Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, ses propos ont été recueillis par notre radio partenaire à Nioro du Sahel. Au Togo, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste vient d'infliger une amende de plus de 2 milliards de francs CFA à l'opérateur de téléphonie mobile Togo Cellulaire. Cette amende, qui représente 2% du chiffre d'affaires de 2021, est la deuxième en l'espace d'une année que subit Togo Cellulaire. Il lui est reproché de n'avoir pas respecté son cahier de charges. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
L'autorité de régulation des communications électroniques et la poste, ARCEP, a infligé la lourde amende de plus de 2 milliards de francs CFA à Togo Cellulaire pour faute de disponibilité permanente, continue et régulière des services aux clients. Ouro Agoro Kadiri est le directeur juridique et de la protection des consommateurs à l'ARCEP.
Le service de communication électronique doit être délivré 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7, de façon continue. Alors, ce que nous reprochons à Togo Cellulaire, c'est qu'il est arrivé depuis un certain temps que le réseau de Togo Cellulaire est très souvent indisponible.
Une indisponibilité dont le cumul peut atteindre jusqu'à 25 jours dans un mois dans certaines régions du pays. Lamboni est opérateur économique dans la ville de Dapaon, à plus de 600 km de Lomé.
C'est une triste réalité que nous traversons dans la région des savanes. Il arrive des moments où vous passez soit une demi-journée ou des heures et des heures sans le réseau, sans la connexion, même des messages, ça ne passe pas. Vous êtes déconnecté du monde, vos affaires, tout tombe à l'eau, vous êtes bloqué.
Sama Pirinam de l'ONG Veille Citoyenne estime que la sanction pécuniaire n'est pas à la hauteur du préjudice subi par les consommateurs.
2% du chiffre d'affaires de Togo Cellulaire n'est pas assez conséquent par rapport à son chiffre d'affaires qui avoisine plus de 100 milliards par an. Donc je pense que l'amende n'est pas assez conséquente. Elle devait être mieux que ça.
Pour sa défense, Togo Cellulaire invoque des faits comme la coupure de sa fibre optique du fait des travaux routiers, des actes de vol et de vandalisme sur son réseau, des difficultés logistiques et d'approvisionnement en raison de la COVID-19, des coupures de l'alimentation électrique et autres. Ouro Agoro Kadiri de l'ARCEP répond.
Vous savez, le vol des câbles, la coupure du courant, ce ne sont pas des cas de force majeure. Quand on est exploitant du réseau, quand on est spécialiste de la question, quand on travaille dans le domaine, on sait que c'est des choses qui arrivent très souvent.
Sans toutefois remettre en cause la décision de l'ARCEP, le journaliste Godson Ketomanian du desk économie du quotidien Liberté veut croire que ce sera ainsi en tout temps.
Rappelons-nous, avant l'ARCEP, il y avait la RTEP qui était chargée de superviser les réseaux. Mais c'est dans notre pays aussi que pendant des élections et à d'autres occasions, les populations ont subi des coupures sans que cette structure mette en demeure cette société qui était Togo Télécom, aujourd'hui Togocom.
Selon la décision rendue par l'ARCEP, Togo Cellulaire est enjoint de mettre fin au manquement d'indisponibilité de services dans un délai de 6 mois ferme, sous peine de sanctions au titre de la récidive. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Soudan, la rue maintient la pression sur les militaires au pouvoir. Le principal bloc politique civil au Soudan a appelé mardi les manifestants pro-démocratie à maintenir leur sit-in contre le général putschiste Abdel Fattah al-Burhan et appelé de nouveau au départ de ce dernier du pouvoir malgré l'annonce de sa volonté de laisser la place à un gouvernement civil. Qu'est-ce qui explique ce regain de tension au Soudan? Abdulrahman Dia a posé la question au rédacteur en chef du journal en ligne Soudan Tribune, Mohamed Naji, basé à Paris.
En fait, il y a cette intensification, j'allais dire, des protestations populaires et des manifs, démonstrations, etc. Parce que la guerre n'a pas l'air de vouloir lâcher de l'Est et donc rétablir le gouvernement civil. Au contraire, ils ont l'intention de se maintenir sur place et de continuer, n'est-ce pas, à diriger le pays.
Pourtant, le général al-Burhan a annoncé lundi sa volonté de laisser la place à un gouvernement civil. Vous pensez que, comme le dit ce bloc politique, c'est un peu un retrait tactique de l'armée qu'il veut effectuer?
En fait, ce n'est pas seulement un retrait tactique. En réalité, lui, il a déjà, al-Burhan, depuis avril 2019, Al-Burhan se mettait à dire quelque chose de très simple. Il disait que moi, je veux bien que les civils dirigent le pays, mais que ce soit un gouvernement de gestion des affaires courantes et qu'il prépare les élections pendant que le conseil militaire reste aux affaires du pays et soit là pour assurer le destin du pays. N'est-ce pas? Donc, assurer le destin du pays, il parle de la question de l'armée, de la question de sécurité, il parle de la politique étrangère et il parle aussi du contrôle de la politique économique, surtout de la banque centrale, etc. Le reste, c'est pour les civils. Et les civils, les gars, il faut pas se tromper. Ce sont ceux qui veulent accepter nos plans et qui veulent travailler avec nous.
Malgré l'annonce du général al-Burhan de sa volonté de céder la place en gouvernement civil, vous craignez que le blocage se poursuive?
Mais au fait, en réalité, al-Burhan fait une annonce, mais ce n'est pas la réalité de ce qu'il entend faire. C'est-à-dire, lui, il veut consacrer une situation qui est déjà de fait, n'est-ce pas? Pour le gouvernement civil, il entend par là ses alliés qui viennent à ses côtés. Donc, du coup, il répond en aucun cas aux demandes, aux revendications populaires ou des opposants, en tout cas. Et voilà, les autres, ils disent, ils n'ont pas le choix que d'intensifier et de monter la pression populaire contre lui.
C'était joint à Paris, Mohamed Naji, rédacteur en chef du journal en ligne Soudan Tribune. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebudia, à la mise en onde de Michel Joseph et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.